Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz.
Vivante Église aujourd'hui consacrée à la direction spirituelle, qu'est-ce que c'est et qui est concerné ? Ce terme direction spirituelle à mauvaise presse, on en a une image dirigiste, rigide, voire manipulatrice. On pense à l'emprise d'un clerc sur une femme, obéissante et aliénée. Bref, l'impression est désastreuse. Et si l'on ne lit pas attentivement les débuts du livre que vous venez de consacrer à ce sujet, Père Philippe Play, on pourrait se dire qu'on est en plein dans cette caricature. Intitulé « Entretien sur la direction spirituelle », préfacé par Tim Guénard, l'écrivain et le conférencier dont on connaît plus fort que la haine, ce livre est un dialogue entre vous-même comme directeur et une femme, Danielle Larivière, l'une de vos dirigées. Vous, vous êtes religieux passionniste, écrivain, notamment sur le fondateur de votre congrégation, Saint Paul de la Croix, et sur Saint Jean. Vous vivez en ermite tout en animant le sanctuaire marial Notre-Dame du Croc dans l'Aude. Et vous pratiquez la prédication et la direction spirituelle. Quant à votre dirigée qui co-signe ce livre, Danielle Larivière, elle se présente dans une préface où elle raconte son histoire de conversion assez radicale après un parcours de vie normalement chahuté, de mari, une vie professionnelle brillante et réussie, un tempérament plutôt autoritaire. Et c'est donc avec cette femme-là, qui prend beaucoup de place dans votre livre, mais je signale tout de suite qu'elle ne souhaite pas participer à la présentation de ce livre, c'est donc avec cette femme-là que vous vous êtes plié à l'exercice de parler de la direction spirituelle. Danielle Larivière vous soumet à la question avec une grande liberté. Tout y passe, notamment ce qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on aborde la direction entre un homme et une femme. Et donc, on découvre dans ce livre ce qu'est la direction spirituelle telle que vous la pratiquez. Père Philippe Play, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va d'abord peut-être commencer. Pourquoi est-ce que vous avez gardé ce terme de direction spirituelle qui fleure bon un peu, quelque chose d'un peu suranné? On a l'impression de se retrouver au 19e siècle.
Il y a plusieurs termes, effectivement, hein, comme vous le soulignez. La pratique de la direction spirituelle a été modernisée, y compris dans sa présentation.
Dans son vocabulaire.
Mais en même temps, c'est pas seulement une remise en état, un ravalement de la façade qui est opéré par ces termes. Il y a aussi des connotations nouvelles qui sont apparues dans la direction spirituelle et qui n'existaient pas, par exemple, encore au début du XXe siècle. À savoir toute la dimension de l'accompagnement psychologique, par exemple, entre autres. Et donc, là, quand on parle d'accompagnement, à ce moment-là, il y a une nuance à la fois, je dirais, c'est une direction spirituelle. C'est parce que ça, normalement, le but c'est toujours de conduire l'âme vers Dieu. Ça, c'est le fondamental de la direction spirituelle, donner la direction. Mais en même temps, dans l'accompagnement, il y a cette notion, on marche aux côtés d'eux. Il n'y a pas un supérieur, un inférieur. Il y a un dialogue presque amical, pourrait-on dire, dans la notion d'accompagnement. Il y a aussi une vision plus large et qui déborde ce qui est strictement le domaine de la spiritualité, la connaissance de Dieu et la connaissance de sa volonté, au sens strict et formel, c'est ça. Et bien là, il y a toute la préparation aussi de l'homme dans son conditionnement humain et dans ses blessures. Donc, au niveau contemporain, il y a beaucoup d'expériences qui élargissent énormément la direction spirituelle, parfois même jusqu'à la diluer. On arrive même finalement à ce que un type d'accompagnement psychologique, vous voyez, on arrive à un accompagnement psychologique en perdant de vue même le domaine spirituel. En conservant le terme de direction spirituelle, j'ai voulu vraiment ramener les choses dans le sens de cheminer vers Dieu. Hein. Certes, on marche ensemble parce que c'est, sinon c'est Dieu qui est le directeur spirituel en termes d'achèvement, en termes d'accomplissement. Lui, il est déjà arrivé par définition, ou les saints. Mais sur la terre, il y a, bon, évidemment, on est toujours en marche, le directeur est en marche aussi. Mais c'est le terme, vous voyez, c'est cette direction. Dans la vie, on peut dire que la liberté humaine, on peut la traduire en termes de direction. Il y a des chemins qui se présentent à nous, des chemins à prendre. Et alors, un des sens du mot direction, c'est justement celui-là. Et c'est celui de la direction spirituelle, c'est-à-dire regarder le côté de l'horizon qui est le bon sens, là où la lumière se trouve, là où il faut aller. Et il y a les mauvaises directions. Donc on insiste beaucoup sur l'aspect du discernement dans ce cas-là. Et comme c'est un aspect important dans la direction spirituelle que je pratique, eh bien justement j'ai voulu conserver ce terme-là de direction.
Voilà, direction dans votre esprit, ça serait plus autour d'une orientation, l'orientation vers Dieu, que d'être le chef au-dessus de quelqu'un qui est en dessous.
Voilà, on pense au directeur aujourd'hui, voilà.
C'est les chefs.
C'est hiérarchique, ça c'est sûr.
Exactement.
Or, il y a d'ailleurs une notion d'obéissance en plus dans la direction spirituelle qui pourrait justement aller dans ce sens-là, dans cette interprétation. Mais c'est pas la mienne. C'est pas celle des saints en général. Vous voyez, même si on se replonge dans un contexte où on employait vraiment le terme de direction spirituelle, je veux dire à l'époque de François de Sales, par exemple, eh bien, François de Sales, lui, avec Jeanne de Chantal, à balayer cette notion de direction spirituelle au sens hiérarchique. Pourquoi ? Parce que Jeanne de Chantal, avant de connaître François de Sales, elle suivait une direction spirituelle, mais alors dans le très mauvais sens du terme. Celui que vous avez souligné dans l'introduction, précisément. Il ne voulait pas qu'elle devait lui obéir aveuglément, elle ne devait pas discuter, elle ne devait pas parler de ce qu'il lui disait non plus, vous voyez. Donc vraiment, elle avait aucune chance, normalement, de s'en sortir, de se tirer de ses griffes. Il y a vraiment quelque chose de captatif et d'insupportable dans ce cas-là. Parce que la liberté, c'est le propre de la foi. Si on enlève la liberté, on tombe vraiment dans l'aliénation. Et François de Sales, eh bien, lui, d'un revers de main, lorsqu'elle l'a rencontré, il prêchait donc à Dijon, et elle l'a entendu, elle l'a reconnu. C'est ça qui est très beau, d'ailleurs, c'est que le Seigneur fait reconnaître celui qu'il destine, ou celle qu'il destine pour le directeur, inversement. Et lui, d'un revers de main, lui a dit, mais non, ça c'est pas du tout... Donc les saints confirment totalement la réfutation que vous faites de cette notion hiérarchique, de cet enfermement, de cette mainmise,
aliénation. De ce risque d'aliénation.
Tout à fait.
Alors, on va passer en revue, parce que vous nous avez bien dit déjà un petit peu ce que vous entendez par direction spirituelle. Danielle Larivière, elle pose les questions et on entend bien l'origine qui est la sienne. Elle a travaillé en entreprise. Elle a même exercé des responsabilités. Alors, un directeur spirituel, c'est pas un psy, pas un coach, pas un consultant, pas un gourou, pas un confident, pas un ami, encore que,
mais elle a raison si elle dit, quand elle dit que c'est pas en soi un ami, parce que c'est pas automatique.
Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être.
C'est pas quelque chose d'incontournable dans la direction spirituelle. On n'est pas obligé d'être l'ami du directeur spirituel, et inversement. En revanche, ça peut tout à fait l'être, parce que par définition, on entre dans l'intimité de la personne, et donc le dialogue, on est des humains, on n'est pas des robots, pas des machines, et donc c'est propice à l'amitié. Mais l'amitié demeure un sentiment électif. L'amitié, c'est de l'amour, un amour particulier. Et l'amour, c'est électif par nature. Comme l'amour de l'homme et de la femme, l'amour érotique, l'eros, il est électif. C'est pareil pour l'amitié. Il n'y a que l'agapé qui ne soit pas électif. Il est donné à tous, l'amour divin.
Alors, pas psy, pas coach, et encore, vous avez évoqué tout de même la dimension de sciences humaines, et le coach, c'est aussi celui qui tire un peu en avant, donc peut-être que c'est pas vraiment tout ça, mais ça procède un petit peu de tout ça.
Ben, il y a toujours une notion de conseil, parce qu'on est incarné, on peut pas faire de, comment dire, développer une connaissance de Dieu et de la volonté de Dieu à l'état pur, au niveau conceptuel, sans passer par les conditionnements de notre existence, par notre tempérament, par le milieu dans lequel on vit, etc. On peut donner à l'occasion quelques conseils, mais il faut connaître aussi les limites de son directeur spirituel. Il n'est pas forcément très doué pour vous donner des... Tous ne sont pas très doués, dirais-je, pour vous donner des conseils sur la manière de vous comporter en public ou dans votre manière de dans votre travail, par exemple, ou bien dans les problèmes psychologiques que vous pouvez rencontrer par rapport à des blessures que vous auriez eues à un moment de votre vie. Bien sûr, le prêtre est sensibilisé à toutes ces choses parce que il est tout l'intéresse dans l'homme. Il est un disciple du Christ dans ce sens-là. Mais on n'a pas pour autant des vertus naturelles, enfin des qualités qui nous permettent d'avoir un bon discernement forcément dans ces domaines-là.
Et c'est pas gênant. Discernement, quand même, ça semble être un élément tout à fait déterminant.
Ah, c'est tout à fait déterminant, mais il vaut mieux connaître un petit peu les tempéraments des gens pour savoir quelles sont les ruses conscientes ou inconscientes. Il y a évidemment, c'est ce qui fait le bon directeur spirituel. Mais en soi, tout homme n'a pas les mêmes qualités que l'autre. Mmh. Et donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, souvent, dans l'Église, la direction spirituelle, vous voyez, c'est pas un ministère au même titre qui appartient directement. Il appartient au ministère sacerdotal au sens large, au sens de celui qui donne la direction, justement. On en reparlera, là. Mmh. Mais c'est pas un ministère, c'est pas comme la confession, comme les sacrements, comme la catéchèse. C'est pas quelque chose qui appartient vraiment spécifiquement aux prêtres.
Oui, puisqu'il y a des laïcs qui sont.
Il y a des laïcs, et puis il y a beaucoup de prêtres qui n'exercent pas la direction spirituelle. Peut-être à cause d'un manque de qualité, par exemple, quand on a vraiment aucun sens de la psychologie humaine, c'est quand même difficile d'exercer la direction spirituelle d'une manière un peu conséquente et sérieuse.
Alors, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, quelques instants. Père Philippe Play, je rappelle que vous signez avec Daniel Larivière un livre intitulé « Entretien sur la direction spirituelle » publié récemment aux éditions Mediaspol. On s'arrête quelques instants et on revient sur cette association, l'une des associations de la direction spirituelle, hommes et femmes. Vous pouvez, vous, comme directeur spirituel, diriger des hommes, également des femmes. Évidemment, sur la direction d'un homme par une femme, on se pose quelques questions. Vous allez y répondre parce que c'est largement évoqué dans votre livre. On se retrouve dans quelques instants.
Présence.
Même si tes églises ont vieilli parfois, si la poussière grise recouvre tes bras, donnez ma chemise, donnez comme toi. Même si les temps changent, toi ne change pas. Garde-moi un ange pour guider mes pas dans ce monde étrange, plus bas qu'ici-bas. Moi je crois en toi sur ta croix, les enfants des signes de croix. Et je crois en toi sur ta croix, Fils de Dieu sublime, crucifié. Pourquoi? Même si la nuit tombe sur la nuit des rois, et que sur les tombes, c'est toi que je vois. Même quand tout s'effondre, je garde la foi. Même ceux qui sont pauvres, même ceux qui ont froid, dans la lumière mauve, le chante avec moi. Même si tout se sauve, toi tu restes là. Moi je crois en toi sur ta croix. Des prières intimes montent jusqu'à toi. Et je crois en toi sur ta croix. Dans le ciel splendide, souvent je te vois. Moi je crois en toi sur ta croix. Les enfants dessinent des signes de croix. Et je crois en toi sur ta croix. Fils de Dieu sublime, crucifié, pourquoi ?
Vivante Église.
Père Philippe Pleys, je rappelle que vous êtes prêtre, vous êtes religieux passionniste. Vous avez publié récemment un livre intitulé « Entretien sur la direction spirituelle » co-signé avec l'une de vos dirigées, Danielle Larivière, qui se présente dans la préface de ce livre, qui n'a pas souhaité participer à cette émission. Mais dans ce livre, vous évoquez avec elle ce qu'est la direction spirituelle. On en a un peu parlé dans la première partie de cette émission. On va revenir sur la relation directeur-dirigé et peut-être plus particulièrement lorsque c'est un homme qui dirige et c'est une femme qui est dirigée. On voit tout de suite tout de même des pièges multiples. Et en même temps, dans la durée, cette relation peut se poursuivre, on va dire pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être des prudences à avoir, mais aussi des richesses à vivre ?
Bah, la relation homme-femme est toujours pleine de toutes les promesses, par définition. Et l'essentiel, c'est de toujours garder à l'esprit bah, le motif, la finalité de la direction spirituelle. Il s'agit de... C'est une relation non pas à deux, c'est une relation à trois. Et ça, c'est très important. C'est ce qui la distingue bah, de toutes les autres formes d'accompagnement, hein, psychologique, coaching, etc. C'est une relation à trois parce que le Seigneur est vraiment présent. Nous en avons la certitude et parfois même la sensation. Et en tout cas dans le discernement. Donc, par rapport dans cette relation homme-femme, elle doit être vraiment consacrée à Dieu. C'est l'homme avec un grand H, c'est lui, c'est pas le directeur spirituel. Mais il se trouve que, eh bien, bien sûr, surtout quand l'amitié commence à naître entre deux personnes, eh bien, il y a des risques qu'on tombe, je dirais, dans ce que je dirais l'humain en quelque sorte. Et c'est quoi l'humain dans ce cas-là ? C'est l'oubli du monde divin, c'est l'oubli de ce pourquoi nous sommes là. Donc, ce plan-là, appelons-le psychologique. Même s'il le dépasse quand même, c'est pas au sens technique du psychologique, c'est au sens très large qu'il faudrait l'entendre. Mais c'est donc si lorsqu'un prêtre dirige une femme qui est dont la vie est parfaitement comblée normalement, il y a aucun problème, il y a aucun souci.
Mais c'est plus facile peut-être.
Mais en tout cas déjà la première chose que le prêtre doit surveiller, c'est qu'il ne doit pas fonder son accompagnement sur la séduction. Ça, c'est très important. On est dans une société où la séduction est partout. Elle est utilisée par tout le monde, dans tous les domaines. Et tout le monde, et le prêtre, comme les autres, est tenté d'utiliser la séduction, alors sous toutes ses formes, au sens large, mais réelles, pour avoir un peu d'efficacité. Alors ça, c'est déjà une chose qu'il faut abandonner. Le prêtre ne doit pas fonder son efficacité, sa fécondité sur la séduction. Et c'est pas lui. S'il devient séduisant, Eh bien, il doit le devenir parce que Dieu est en lui et d'une certaine façon rayonne ou se fait entendre par lui. Mais c'est l'extrême limite de la séduction chrétienne qu'on puisse envisager. Donc du côté du directeur spirituel, il doit en être de même aussi pour la diriger. La diriger ne doit pas essayer d'intéresser son directeur spirituel. Vous voyez, c'est toujours dans l'ordre de la séduction, c'est forcément une ambiguïté. Donc on se dit, ma vie spirituelle est pas bien riche actuellement, donc je vais il faut que je relève
un peu
chose.
Ça.
Que sais-je, vois. Et puis là c'est par rapport à l'image que le directeur peut avoir de la femme dans ce cas-là, mais ça peut aller évidemment toujours beaucoup plus loin dans le sens de qui commence non seulement à s'intéresser vraiment à la personne jusqu'à peut-être même la fascination. Donc là, évidemment, il faut arrêter ça. Il n'y a pas de direction spirituelle possible si on s'enlise dans ce type de relation. Là, il faut savoir être sévère quand même parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si on entame un processus de direction spirituelle, c'est quand même pour marcher vers la sainteté. Et c'est vraiment ça. Et la sainteté, c'est un monde qui est d'abord très réaliste, où on se livre soi-même dans la direction spirituelle. Eh bien, on met à nu son cœur. Vous voyez, les moines du désert ne faisaient pas beaucoup de commentaires. C'est eux qui ont inventé la direction spirituelle que nous connaissons au 4e siècle de notre ère. Ça consistait, le jeune moine venait faire tous les soirs à peu près, c'était tous des ermites, il venait de montrer, déballer en quelque sorte toutes les pensées, il appelle ça des pensées, les sentiments et les méditations qu'il avait pu avoir pendant la journée, les bonnes, tout. Et c'était le moine plus expérimenté, le maître spirituel, là c'est plutôt l'expression qu'on utilisait, qui pouvait ne même pas commenter s'il n'y avait rien à commenter, vous voyez. La direction spirituelle, ça peut être quelque chose de très simple, mais c'est fondé vraiment sur une ouverture du cœur. Il faut vraiment se présenter tel qu'on est. La séduction, c'est l'inverse. On se présente tel qu'on veut que l'autre nous voit. Et on est vraiment dans l'ordre inverse.
Pour vous, directeur spirituel, vous dirigez à la fois des hommes et des femmes. C'est très différent.
Ah oui,
La vie spirituelle ou le chemin spirituel des hommes et des femmes sont très différents.
Oui, parce que l'homme et la femme sont bien différents. Il y a bien sûr tout un patrimoine commun, mais les différences sont quand même notables.
Expliquez un peu.
Oui, je dirais, l'homme est plus technique de prime abord. Attention, c'est une nuance. Plus technique.
C'est pas un absolu.
C'est une
orientation.
Voilà. Et on est plutôt sous langue un peu plus théorique sur la foi. Et puis on passe aux pratiques aussi. Mais c'est dans la pratique aussi, c'est tout de suite très technique et direct, on va dire, assez carré. Avec la femme, il y a toute la sensibilité, c'est vraiment on peut dire que la femme c'est une œuvre d'amour de Dieu qui est incroyable. Il a voulu montrer par la femme que l'amour prend tout, et l'homme facilement est ambivalent. Et il a sa vie de travail, par exemple, sa vie de famille, et puis sa vie spirituelle, et tout ça, ça coexiste assez bien, c'est bien rangé. Pour la femme, c'est pas le cas. La femme est vraiment très unitive. Il y a pas tous ces cloisonnements. Et donc, en même temps, il y a beaucoup de, d'interactions. Et de difficultés, donc de complexité aussi. Et donc il y a toute cette sensibilité de la femme là qui fait aussi quand même il y a plus de saintes que de saints. Allez savoir pourquoi.
Comment vous constatez ça? Vous avez fait une liste ou
quasiment? C'est pas exact, c'est pas exhaustif, mais c'est quand même à force quand on voit quand même l'ensemble des saints. Les martyrs, c'est partagé, mais on s'aperçoit quand même que les grandes amoureuses, par définition, c'est souvent des femmes. Il y a eu de grands amoureux aussi, parce que c'est possible, l'amour c'est pas de l'ordre de la sexualité, mais il se trouve que le conditionnement humain, le conditionnement sexué, manifeste extérieurement quelque chose. la femme a une sensibilité beaucoup plus grande, une attention. Je dirais que, pour faire la différence, l'homme, lui, il a tendance à organiser le monde. C'est, il construit des casernes, donc très efficaces, mais pour que ce soit vivable, bah, c'est la femme qui donne la vie à tout ça, qui rend vivant, qui met du cœur, en fait, dans le monde. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil, elle met du cœur partout. Avec un l'homme, c'est pas son cas. Il met du cœur, mais dans les choses essentielles et vitales. La femme, elle va mettre du cœur dans toutes ses activités. Alors du bon cœur et parfois d'un mauvais cœur aussi. Alors c'est ça qu'il faut discerner. Et donc c'est plus compliqué. Ça réclame plus d'attention et dans tous les sens du terme.
Père Philippe Play, on s'arrête quelques instants et nous reviendrons sur les résultats, les effets, les bienfaits de la direction spirituelle. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Mediaspol, Entretien sur la direction spirituelle.
Présence.
Vivante Église.
Père Philippe Play, je rappelle que nous parlons de la direction spirituelle à l'occasion notamment de la publication de votre livre écrit, co-écrit avec Daniel Larivière qui est une de vos dirigées, Entretien sur la vie spirituelle publié aux éditions Mediaspol. La durée d'une direction spirituelle, on peut avoir un directeur ou une directrice parce que les religieuses et les femmes et les laïcs et les hommes peuvent être également directeurs, vous en expliquez dans ce livre. On peut l'avoir à vie, on peut quitter si on sent que c'est nécessaire? Comment vous réfléchissez à cette question de la durée?
Il y a tous les cas. Je dirais que si on voulait faire un schéma général, eh bien, on change de directeur. On doit changer de directeur spirituel en fonction de son âge spirituel, en quelque sorte. Souvent, ça commençait autrefois, quand c'était une pratique très très sociale, très régulière. Eh bien, ça commençait avec le curé. C'était les enfants qui commençaient le béaba, quoi, de la mise en pratique de la foi. Vous voyez, la direction spirituelle, c'est pas seulement une catéchèse au sens large. On prêche pas seulement les valeurs chrétiennes. Il s'agit de les adapter à une personne déterminée, qui vit dans un milieu déterminé, qui a un sexe, un âge déterminé. Donc, il suffit que le directeur spirituel ait un peu plus d'avance au niveau de la pratique de sa foi, mais il n'a pas besoin d'être déjà au ciel pour conduire, pour mettre sur le chemin une âme. Donc, on doit changer, on a des croissances parce qu'on a des conversions. Ça, c'est une chose très importante. On n'est pas, c'était l'évangile de dimanche, l'appel des premiers disciples. Les premiers disciples étaient dans la ferveur, c'est le cas de ceux qui viennent demander une direction spirituelle, mais pour aller plus loin. Donc, il y a des conversions régulièrement qui sont suscitées par Dieu lui-même, qui nous appelle à aller plus loin dans notre vie. Et le directeur est là pour, si c'est le même, eh bien pour bien appuyer sur cette demande du Seigneur, ou bien la personne le sent, et d'un commun accord, la plupart du temps, elle va changer de directeur spirituel. Non, à mon avis, le schéma général, c'est que dans sa vie, en fonction justement de ces accélérations, de ces appels toujours plus intenses du Seigneur, eh bien, on change de directeur spirituel. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont eu aussi un seul directeur spirituel au long de la vie.
En tout cas, c'est une question dont on peut parler ensemble.
Ah, tout à fait, il faut même.
Si ou voilà.
Voilà, oui, il faut pas hésiter parce que ça garantit la liberté. Et puis je vous dis, le Seigneur, c'est pas un ministère définitif, c'est un accompagnement fraternel, mais il est même pas nécessaire dans la vie chrétienne. Hein.
C'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire d'avoir un directeur spirituel non plus. C'est pourquoi il est toujours utile, et dans la direction spirituelle, on doit essayer de le faire, de vérifier si c'est la volonté du Seigneur déjà, par les éléments extérieurs de la vie de quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on veut une direction spirituelle ou un nouveau directeur spirituel quand on en avait déjà un? C'est parce que dans sa vie, quelque chose de nouveau est intervenu. Soit au sens positif du terme, on est appelé à une vocation, on se sent appelé à autre chose que ce qu'on vit, ou bien l'aspect ténébreux, on entre dans une phase là qu'on connaissait pas, où les ténèbres nous envahissent davantage, et alors là on a vraiment besoin d'un accompagnement.
Voilà, justement, à quoi ça sert? À quoi ça sert finalement? Vous l'avez dit, c'est l'orientation, orienter sa vie vers le Seigneur. Quels en sont les bienfaits et quelle est la place du combat spirituel? Est-ce que vous évoquiez les débuts, par exemple, d'une conversion où il y a une grande ferveur? La ferveur, elle ne reste pas non-stop comme ça toute la vie. Hein.
En tout cas, pas sous cette forme-là. La ferveur, c'est une sorte d'énergie. Celle-ci doit demeurer. Mais ce qu'on appelle la ferveur, c'est-à-dire le sentiment psychologique, conscient.
L'émotion, presque.
L'émotion, oui. Toutes ces émotions qu'on ressent, qui sont les effets de cette énergie, eh bien, ça passe, en revanche. C'est vrai que au moment de la conversion, là, on a besoin d'être aidé. Surtout pour les gens qui passent d'une vie où il n'y avait pas Dieu, où peut-être ont-ils vécu dans un milieu où on ne parlait jamais de Dieu, donc ils n'ont aucune formation. Donc je dirais que là, quand ils sont adultes, la première fonction du directeur spirituel, c'est une catéchèse. On installe la foi pour la personne, une personne déterminée, mais en même temps, il y a tout un aspect catéchétique qui se fait.
Et donc là, vous parlez pas mal dans ces cas-là.
Ah bah, on parle toujours beaucoup dans la direction spirituelle.
Le directeur. Le directeur parle beaucoup.
Ah, les deux parlent
les
beaucoup.
Deux.
Ça dépend. Mais c'est vrai que si on a des choses à mettre en place comme ça, bon bah, ça permet de... Mais la direction spirituelle, c'est large aussi. C'est pas forcément un moment déterminé, vous voyez, entre 4 et 5, dans une sacristie ou un bureau. Ça peut être en marchant, ça peut être en plusieurs moments. Si la personne habite dans les environs, bon bah, et plusieurs échanges, c'est très souple, la direction spirituelle. C'est pas qu'il faut surtout pas la rendre rigide. Et
le combat. Vous évoquiez la partie ombreuse, ténébreuse, de nos vies, de ce que nous sommes.
Qu'est-ce que nous sommes fondamentalement dans la vie? Une créature qui est toujours tentée de se refermer sur elle-même, de s'aimer, jusqu'à parfois s'idolâtrer. Et une créature qui recherche le bonheur ici-bas. Donc la fonction vraiment du directeur spirituel, c'est dans la douceur, mais dans la fermeté en même temps, eh bien d'ouvrir la personne, d'ouvrir les cœurs, que les cœurs ne se ferment pas, qu'ils s'ouvrent toujours davantage à cette perspective d'un dépassement de soi. On a beaucoup de mal parce qu'on vit là encore dans un monde qui est dominé par le psychologique, et la loi du psychologique, c'est justement d'être un monde harmonieux parce que clos sur lui-même, pas dans les relations, mais dans ce qu'est l'ego, dans la structure psychique. Un ego éclaté, c'est l'inverse de la bonne santé. Et tandis que au niveau de l'âme, c'est l'inverse. Jésus a des phrases provocatrices. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits, par exemple, ou qui même doit se renoncer lui-même. Et c'est pas valable psychologiquement, ça. Donc le directeur spirituel doit accompagner les personnes à ce niveau-là. Les crises, c'est lorsque une personne est déchirée, je dirais, entre le désir de croître dans la connaissance de Dieu et en même temps dans une résistance éperdue pour se sauver elle-même d'une certaine façon, pour enfin le mouvement contraire et qui
ça vous constatez ça chez
ah
les,
oui bien
chez
sûr
cette espèce de déchirement entre des forces contraires.
Ouais. Ah oui, tout à fait. Ça répond à ce que le Seigneur disait. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit, oui, il y a ce discernement, mais après, il y a c'est crucifiant pour l'homme. Cette étape délicate que j'appelle l'ouverture du cœur, qui est l'étape du véritable renoncement à soi-même. Le Seigneur a prévu que ça se fasse normalement tout au long de l'existence, mais il y a des moments plus intenses que d'autres. Et dans le mariage, par exemple, il y a le moment où il faut vraiment être héroïque pour demeurer fidèle. Et ça, c'est des moments qui sont pas faciles. Ça fait partie aussi de l'accompagnement spirituel, par exemple, si les personnes se trouvent dans ces situations-là. Et ce qui se passe pour un couple, ça se passe aussi avec Dieu, d'une certaine façon. Et alors là, il est difficile de choisir Dieu en se reniant soi-même, quoi. C'est se renier, et ça, c'est toujours délicat. Et puis il y a des tentations constantes de repli sur l'humain. On évoquait entre un homme et une femme, entre un directeur et une dirigée, par exemple. Et bien cette tentation de dévier l'amour divin vers l'autre.
Un peu captatif, quoi.
C'est ça. Et même sans aucune perversité d'intention. C'est une tromperie, c'est une inclination humaine à ramener les choses à un plan vraiment horizontal. On a du mal à quitter ce plan horizontal, l'immanence, quoi, la vie purement terrestre, parce que fondamentalement est inscrit en nous une grande réalité, c'est on a envie, on aspire au bonheur. On aspire au bonheur ici-bas. Mmh. Et le directeur spirituel doit expliquer que ça, ce qui est premier, c'est la recherche de la vérité. Parce que si on met en premier la recherche du bonheur, comme c'est le cas dans l'Apocalypse, c'est la grande leçon de Saint Jean dans l'Apocalypse, la prédication de la bête, elle fait ce renversement. Elle dit, mais le sens de la vie, c'est pas d'abord rechercher la vérité, c'est rechercher le bonheur. Et à partir de là, elle incline les hommes vers l'hédonisme, vers le paradis, mais terrestre, pas céleste. Et bien, c'est valable pour tout dans la direction spirituelle. C'est le grand mouvement, quoi. C'est le directeur spirituel spirituel doit faire œuvre de verticalité. Ça, c'est très important et pour toujours redresser les personnes.
Vous avez évoqué l'Apocalypse. Je signale que vous avez publié un livre intitulé « Les grandes énigmes de l'Apocalypse » publié aux éditions Salvator. Aujourd'hui, nous parlons de la direction spirituelle. On s'arrête quelques instants.
Présence.
Vivante Église.
Père Philippe Play, je rappelle que nous parlons de la direction spirituelle à l'occasion de la publication d'un livre intitulé « Entretien sur la direction spirituelle » publié aux éditions Mediaspol et co-signé par vous-même et l'une de vos dirigées, Danielle Larivière. Alors, on revient sur cette direction spirituelle. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? On a beaucoup parlé des dirigés, de ce que vous êtes et ce que vous essayez de faire dans la direction spirituelle. Mais tout de même, vous approchez des âmes, vous approchez des vies, vous approchez des sensibilités. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Une espèce d'école de vie, sans doute. Je sais pas, non ?
C'est un des beaux aspects du ministère sacerdotal. Ce que ça représente pour moi, c'est être l'ami de l'époux comme Jean-Baptiste, vous savez, par rapport à Jésus. C'est lui qui désigne l'agneau de Dieu, c'est lui qui envoie à Jésus ses premiers disciples, et comme il le faisait pour les foules d'ailleurs en général. C'est l'ami doit être très respectueux. D'abord, c'est un ami. C'est quelqu'un donc qui ne travaille pas pour son propre compte, qui travaille vraiment pour le Seigneur. Et il va dans la direction spirituelle, et contrairement par exemple à la prédication, eh bien on travaille certes dans le même but, le salut des âmes, mais on le fait d'une manière très différente. La prédication, c'est global, on s'adresse à un auditoire, tandis que là, dans la direction spirituelle, on a l'occasion de contempler l'œuvre de Dieu dans un cœur d'une manière totalement intime. Et quand on regarde l'œuvre de Dieu, et non pas juste la personne pour elle-même, son épanouissement, là on est vraiment dans sa vocation, et là, ça devient la source d'un grand émerveillement. Moi, voir l'œuvre de Dieu dans les âmes, on le constate d'une manière globale, en dehors de la direction spirituelle ou en dehors de relations fortes avec les uns ou les autres, où ces confidences sont quand même faites aussi. Mais finalement, c'est dans ce type de rapport, donc celui de la direction spirituelle, qu'on peut vraiment voir l'œuvre de Dieu en quelqu'un. Et en réciproque, contempler cette œuvre de Dieu, contempler la purification d'un cœur et son son redressement, l'accès au véritable bonheur, quoi, en enlevant tous les faux bonheurs et toutes les peurs qui en dépendent, eh bien, ça donne en retour, l'envie d'avancer aussi. Et donc, il y a tous ces fruits.
Vous insistez volontiers, en tout cas, Daniel Larivière insiste beaucoup sur le lien entre direction spirituelle et sacerdoce presbytéral, tout en soulignant bien que des laïcs et des religieuses peuvent très bien exercer cette mission de direction spirituelle. Mais pour vous, il y a une consonance, spéciale, particulière, particulièrement convenante, on va dire ?
Non, là, entre Daniel et moi, il y a une petite divergence là, à ce niveau-là. Alors, elle est plutôt un peu cléricale. Elle veut, pour elle, il faut que le directeur soit vraiment exemplaire. Et ça, c'est vrai que c'est une des qualités essentielles du directeur. Il doit être exemplaire, sage, expérimenté. C'est pas la peine de prendre un directeur.
Tout le temps exemplaire, tout le temps sage, tout le temps expérimenté.
Ça ne veut pas dire impeccable.
Non, j'espère.
Mais il reste un homme. Mais donc Daniel, pour ça, c'est sa forme d'appel aussi, la vie consacrée ou la vie sacerdotale. Tandis que je préfère ramener les choses à une autre exemplarité qui me semble plus proche quand même de ce que Dieu veut. C'est exemplaire dans la foi, pas dans une forme de foi. Et lorsque quelqu'un est bien avancé, un homme ou une femme, eh bien il peut devenir, il a vraiment une science à communiquer, il a vraiment une sagesse à communiquer, et il peut éviter les pièges et les impasses de la direction spirituelle. De plus, on l'a évoqué aussi, au cours de la vie, on a souvent besoin de changer de directeur spirituel, parce que tout simplement on évolue. Et donc ça signifie aussi que beaucoup de gens peuvent exercer la direction spirituelle selon ce qu'ils sont, mais en fonction de l'âge spirituel des personnes à accompagner. Donc personnellement, je ne le réserve pas du tout au monde clérical, la direction spirituelle. Daniel, à mon avis, pense à sainteté, vous voyez, mais la sainteté, c'est pas seulement dans le clergé, qui en est le symbole, parce que c'est quand même des hommes et des femmes dans la vie consacrée qui sont justement qui sont des symboles, qui doivent être des symboles et donc des visibles au milieu des hommes. C'est la caractéristique de l'Église. Mais la véritable sainteté, et bien évidemment, elle est au-delà du visible.
On termine autour de la question, vous l'avez évoquée, et c'est aussi évoqué dans le livre, à un moment, on reconnaît que cette personne peut être pour vous un directeur spirituel. C'est une mission qui manque un peu dans l'Église. Il y a un certain nombre de personnes qui cherchent des directeurs spirituels et qui n'en trouvent pas. Ceux qu'elles abordent sont débordés et ne peuvent pas augmenter indéfiniment. Comment vous, finalement, conseilleriez quelqu'un qui sent peut-être ce désir de tisser un lien de direction spirituelle et qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui peut aussi se considérer comme pas assez saint, pas assez bien, pas assez avancé dans la foi?
Le pas assez avancé, c'est pas un véritable motif, puisque c'est pour avancer qu'on...
Au contraire, ça serait presque une...
C'est une invitation. Non, le premier conseil, c'est de le demander à Dieu. Les manières, les façons dont le directeur spirituel peut être reconnu peuvent vraiment varier. Vous avez la manière, alors là c'est rare, qui est arrivée, qui est incroyable, c'est en vision ou alors d'une manière forte, une vision soit imaginative mais ou intellectuelle, c'est-à-dire une certitude intérieure aussi forte qu'une vision, quoi. Les personnes reconnaissent ou bien même, c'est le cas de Sainte Gemma Galgani, elle avait vu son directeur spirituel avant même de le connaître, avant même de le rencontrer.
Puis après, elle l'a rencontré.
Et elle l'a reconnu, comme sur une photo. Donc là évidemment, c'est clair.
Il n'y a pas
clair.
Photo.
Mais ensuite, il y a la reconnaissance, au sens plus large du terme, qui est liée à quoi ? Alors, elle peut être liée à deux choses. Bien sûr, il y a la foi, il y a un patrimoine commun dans la foi. Mais il y a aussi, moi par exemple, je suis passionniste, donc la spiritualité de la passion, ça peut être un élément déclencheur pour orienter telle ou telle personne plutôt vers moi que vers quelqu'un d'autre. Donc il y a déjà ça. Sans certitude encore, et puis à l'usage, enfin à l'expérience, on s'aperçoit oui que c'est bien ce que le Seigneur nous proposait. Et puis il peut arriver aussi qu'on le reconnaisse pas du tout. Alors à ce moment-là, c'est un conseiller, je dirais. C'est pas le père spirituel au sens fort du terme, mais ça, il exerce malgré tout une direction spirituelle.
Puis, il y a bien sûr plusieurs formes.
Mais il faut commencer par le demander à Dieu. C'est la première chose. Ensuite, il faut pas se cantonner, au clergé, au monde des religieux. Et il faut rechercher des chrétiens qui ont une grande expérience de la foi.
C'est la clé.
Et elle peut être d'ailleurs, avant d'être formelle, la direction spirituelle, elle peut être implicite. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, c'est un laïc. Plein d'expériences de foi, plein d'enthousiasme, ni l'un ni l'autre. Enfin, moi, je savais même pas ce que c'était que la direction spirituelle. Et puis lui, il ne pensait absolument pas non plus.
Mais vous viviez quelque chose.
Mais en fait, maintenant, avec le recul, je dis, j'ai vécu une direction spirituelle avec cet homme. Et je le savais pas. Et lui non plus. Il était comme un père dans le domaine de la foi.
On termine. C'est vraiment ma toute dernière question autour de l'obéissance. Il y a toujours cette crainte d'aliéner sa liberté, et en même temps il y a une dimension d'obéissance de la personne dirigée à l'égard de son directeur. Ça peut faire peur.
Oui, ça peut faire peur, mais en même temps, ça fait peur lorsqu'on est dans le cadre de l'aliénation. C'est-à-dire la vérification à faire, c'est la verticalité, donc l'exemplarité du directeur. Si le directeur reste trop au niveau horizontal, même s'il parle de la foi, qui vous parle pas de psychologie, mais qu'il est vraiment très horizontal dans ses commandements, des pratiques à faire, etc., l'écouter lui par les autres, ça c'est mauvais signe, il faut réagir. L'obéissance est néanmoins requise. Vous voyez, il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous demandent de faire une direction spirituelle, mais qui ne tiennent pas du tout compte de ce que vous leur dites. Ça demeure infécond. Surtout que l'obéissance est une aide dans certains cas, lorsque c'est difficile, lorsqu'il est difficile de suivre une décision jusqu'au bout, on se rend compte que l'obéissance, c'est pas seulement quelque chose qui émane de la personne, qui est ratifié par la volonté, c'est une grâce, une force qu'on reçoit d'en haut pour accomplir ce qu'on doit accomplir, un pas difficile. On reçoit une véritable force. L'obéissance, dans ce cas-là, c'est pas seulement un acte volitif, quoi. C'est bien plus. C'est le oui, vous voyez, c'est le oui de Jésus au Père au moment de sa passion, que ta volonté soit faite. Alors elle est douloureuse là pour le Christ, mais je veux dire que d'une manière générale, dans la direction spirituelle, quand elle est bien vécue, elle est d'amour, l'obéissance. Elle peut pas être simplement formelle, militaire, c'est pas possible.
Merci à vous, Père Philippe Play. Je rappelle votre livre, co-signé avec Daniel Larivière, Entretien sur la direction spirituelle. C'est publié aux éditions Mediaspol avec une préface de Tim Guénard. Au revoir et merci.
Au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou écrivez-nous par mail à contact@radioprésence.com.